Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La France doit veiller à la sauvegarde de son patrimoine. Tout le monde est bien d'accord sur ce point. Mais tout le monde n'était sans doute pas d'accord avec ce principe pourtant de bon sens, ou du moins tout le monde ne connaissait pas depuis la nuit des temps la valeur de son patrimoine, du patrimoine de sa région, de son village, de son église, de sa cure. Cela dit, pourquoi les beaux-arts n'avaient-ils pas classé certaines statues ? Tout ne peut pas être classé. Et jadis, les conseils municipaux, les maires, les curés avaient l'excuse de ne pas être formés à l'art. Et les charges étaient lourdes, et la moralité publique était en baisse à l'époque. Et les églises étaient alors ouvertes, et les objets sortaient un peu trop facilement des églises. D'où l'émission en deux volets qui vient « Chef-d'œuvre en péril ». Tout d'abord, on s'intéressera à l'affaire d'Allouville-Belfosse. Tout un programme, on dirait, le titre d'un roman policier du 19e siècle. Et la question suivante surgira, logiquement, faut-il retirer aux communes la garde des œuvres d'art ? Le premier volet de cette émission fut diffusé dans Édition spéciale sur France 2 Régionale le 18 avril 1962.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler.
Chef-d'œuvre en péril, une enquête de Pierre Delagarde. Première partie, l'affaire d'Allouville-Belfosse.
Les œuvres d'art sont en péril. Bien sûr, n'exagérons rien. Nous ne sommes plus au début du siècle dernier où les acheteurs de biens nationaux démolissaient de fond en comble d'admirables abbayes pour en revendre les pierres. Aujourd'hui, les œuvres d'art sont inventoriées, elles sont classées, elles sont protégées par d'innombrables règlements. Et pourtant, il se passe encore d'étranges choses. Écoutez plutôt. Il y a 15 jours, on arrêtait deux jeunes pilleurs d'église qui, en quelques mois, avait amassé un butin de, oui, vous ne devinerez pas, de 25 millions. Et il ne s'agit pas de professionnels qui auraient agi avec plus d'astuce et de discernement, non. Il s'agissait de simples amateurs, c'est tout dire. Passons. Il n'est pas rare que ces pillages aient une couverture légale. Ainsi, il arrive que les curés se dessaisissent avec allégresse de chefs-d'œuvre dont ils ignorent la valeur, tout simplement pour payer leur colonie de vacances. Passons encore. Car j'ai un fait encore plus curieux à vous signaler. À Allouville-Belfosse, non seulement le curé, mais encore le maire et tout le conseil municipal se sont trouvés d'accord pour se dessaisir, pour une bouchée de pain, de chefs-d'œuvre de plusieurs millions. L'affaire venait d'être conclue et l'antiquaire se frottait les mains d'une si bonne aubaine lorsque la préfecture s'est aperçue de cette étrange décision. Il était temps. Mais prenons cette affaire par le commencement. Allouville-Belfosse est une petite ville de Normandie à quelques kilomètres d'Yvetot. Elle groupe deux communes, celle d'Allouville et celle de Belfosse. Dans l'église de Belfosse, qui ne sert plus au culte et qui est dans un grand état de délabrement, se trouvaient les fameuses statues. Comment le conseil municipal a eu l'idée de s'en dessaisir ? Eh bien, à notre arrivée à Allouville, nous l'avons demandé aux habitants. Ils ne semblaient pas au courant de cette affaire, ou plus exactement, ils ne voulaient rien dire.
Pas à peine de causer de ça, mais on a causé le maire, pas à peine de... Moi, je ne sais pas, moi. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas.
Pour qu'on tourne la machine, là.
Et... Quoi, ça, c'est une machine de radio, ça te...
Moi, je ne suis pas d'ici, moi.
Vous n'êtes pas d'ici, enfin, vous êtes là depuis 2-3 ans, quand même.
Oui, mais moi, je ne connais rien en ce qui concerne l'église de Belfosse.
Le maire d'Allouville, cependant, après une heure de circonlocution, a fini par me donner une explication de cette affaire. Une explication, enfin, la sienne.
Vous êtes au courant de l'affaire de cette affaire de statue?
Ben, j'en ai entendu parler un peu. Enfin, il y a un antiquaire qui a voulu les acheter,
oui,
quoi.
Oui, oui.
Et ben, au fond, vous vous êtes dit, pourquoi pas, quoi. Elle servait à rien à la commune, quoi.
Oui, puis alors, sur l'état de la commune de Bellefosse, il y avait des statues sans valeur. Mmh. Pour nous, qu'on n'est pas compétents, qu'on ne trouvait pas de valeur à ces statues. Ouais.
C'est normal, oui, évidemment. on les avait pas classées du tout, non?
Non, rien. Non. Pas classé du tout. Ah non, s'il avait été classé, on n'aurait pas.
Oui, bien sûr, oui. Et alors, il vous en proposait combien, l'antiquaire, pour ça, pour les statues?
200 000.
200 000. Oui. Que, dont vous seriez servi pour l'église?
Oui, on avait même intention d'électrifier les cloches.
Oui, d'électrifier les cloches. Au fond, c'était le curé qui vous en avait parlé.
Oui, c'était M. le curé qui nous avait mis ça en route, quoi.
Oui, parce que l'antiquaire avait vu M. le curé d'abord.
Oui, d'accord. Hein.
Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est le préfet qui a dit non, quoi.
Ah ben oui, la commune, comme toutes les communes, on est toujours resté sous tutelle de la préfecture. Toutes les communes, nous sommes des enfants mineurs.
C'est vrai, alors le préfet... Mais alors, comment le préfet l'a appris? Parce que vous avez été obligé de lui dire ou quoi?
Oui, oui.
Mais la vente avait eu lieu déjà?
Oui, par une délibération du conseil.
Oui,
oui.
Bon, alors les boiseries et les statues étaient parties.
Oui, oui.
Bon, et alors le préfet l'a appris comment? Parce qu'il a vu votre délibération ou quoi?
Et ce sont un architecte des Beaux-Arts qui est venu voir sur place, et soi-disant qu'il y avait des photos, des statues, et qui a dit qu'il y avait des statues qui étaient en valeur.
Voilà donc le point de vue du maire d'Allouville. Et voici maintenant la réponse des Beaux-Arts. Monsieur Dupont, inspecteur général des monuments historiques, nous explique la raison pour laquelle ses services se sont opposés à la vente des statues.
Alors, monsieur, vous avez tout le dossier de cette affaire. En particulier, vous avez la description des œuvres qui ont été vendues. De très belles œuvres, oui.
C'était des œuvres importantes, et c'est bien dommage qu'elles aient été vendues.
Alors,
notamment, la Grande Vierge du XIVe siècle était une sculpture importante, représentant la Vierge debout, couronnée, portant l'enfant sur son bras gauche.
Puis une très belle draperie.
Et une très belle draperie, c'est un voile, en réalité ce n'est pas un manteau, c'est un voile qui prend sous la couronne et qui enveloppe le buste de la Vierge, descendant jusqu'aux genoux.
Combien ça vaut une Vierge de cette importance?
C'est fort difficile à dire, mais en tout cas c'est une Vierge qu'on peut estimer entre 1 et 3 millions peut-être aujourd'hui.
Alors ça c'était la plus belle pièce?
C'est la plus belle pièce, il y avait une autre, une sainte, dont nous ne pouvons pas dire à première vue le nom. Les deux autres statues sont de moins d'importance. Il y a une sainte Marthe avec la tarasque qui est tellement repeinte et abîmée qu'on en juge mal. Et puis, il y a un Saint-Jacques.
Le conseil municipal a vendu le tout pour 200 000 francs et vous l'estimez
et
à...
Nous avons une estimation, d'ailleurs, dans le dossier, qui n'a pas été faite par moi, donc, et qui est montée à environ 3 200 000 francs.
Oui, et la vente des statues était une erreur. Mais le maire et le curé, qui en sont responsables, avaient une excuse. Laquelle? Monsieur le curé nous l'expose.
Je ne pense pas que les Beaux-Arts aient rien à dire, car ces statues-là ne sont pas classées. Mmh. Si elles avaient été classées, nous l'aurions su. À la mairie, on aurait été avisé, certainement. Mmh. Mais elles ne l'étaient pas. Et c'est d'ailleurs c'est de là qu'est partie toute l'affaire. Parce qu'elles n'étaient pas classées, elles n'étaient pas signalées sur l'inventaire comme ayant une valeur quelconque, et...
En définitive, donc, la responsabilité, si vraiment ce sont des très belles statues, la responsabilité reviendrait aux Beaux-Arts.
Ah ben, non, parce que... Enfin, moi, je n'en sais rien.
Monsieur le conseil municipal s'est plaint de ne pas être au courant. Au fond, le maire est un cultivateur, il n'est pas forcément expert en art, et lorsqu'il a vendu ses statues, il n'en connaissait pas la valeur. Alors pourquoi elles n'étaient pas classées par les Beaux-Arts?
Elles n'étaient pas classées parce que toutes les statues de France ne sont pas classées. Les classements ont été faits à différentes époques, ils se poursuivent à l'heure actuelle. La commission des monuments historiques se réunit à peu près tous les mois ou tous les deux mois, et on lui propose un certain nombre de classements. Les recherches étant faites dans la région, par le conservateur des antiquités et objets d'art, qui est généralement l'archiviste et qui siège au chef-lieu du département.
Mais il y a tellement de trésors en France qu'on n'en a pas encore inventorié tout, non?
Je pense qu'on n'inventoriera jamais tout, parce que les objets sont extrêmement dispersés, que même le recenseur ne connaît pas toujours la valeur exacte des objets, et de plus qu'il y a des modes. Par exemple, il y a 25 ans, on ne classait pas, ou le plus souvent, on ne classait pas les statues du XVIIIe siècle. Elles n'intéressaient pas. Les boiseries du XVIIIe siècle n'étaient souvent pas protégées, parce que jusqu'à 1920, on s'intéressait aux objets gothiques et jusqu'à la Renaissance, et on n'allait pas plus loin. Et aujourd'hui, nous commençons à nous intéresser aux statues populaires du début du XIXe siècle, qui font l'objet de classements qu'on n'aurait jamais envisagé à la Commission il y a seulement 20 ans.
Il y a combien d'objets classés ?
On dit environ 60 000. 60. C'est peut-être plus près maintenant de 70 000. Cela représente quand même une grande quantité d'objets, n'est-ce pas ?
Et chaque année, vous en classez à peu près ?
Chaque année, on doit en classer dans les 3 à 4 000, je pense, à peu près.
Voilà donc complètement exposée l'affaire d'Allouville-Bellefosse. Personne dans cette affaire, vous avez pu le juger, personne n'est à proprement parler responsable. Ni le maire, ni le curé qui ne sont pas des experts d'art, ni l'antiquaire qui était couvert par une décision du conseil municipal, ni enfin les beaux-arts, à qui il faut de longues années pour arriver à classer tous les chefs-d'œuvre de nos églises. Cette affaire, où il n'y a pas à proprement parler d'escroquerie, est grave, car si elle se reproduisait dans de nombreuses communes, le patrimoine national serait gravement amoindri. Faut-il donc, solution qui vient tout de suite à l'esprit, enlever à la garde des communes ces chefs-d'œuvre de l'art français ? Ce sera là l'objet de notre prochaine émission. Mais déjà précisons que la vraie solution nous semble autre. Chaque Français, à notre avis, devrait prendre conscience de l'importance de notre patrimoine artistique et aider les beaux-arts à le protéger.
C'était Chef-d'œuvre en péril, une enquête de Pierre Delagarde.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 18 avril 1962. Sans plus attendre, voici le deuxième volet de cette série, diffusée pour sa part le 25 avril 1962.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler.
Chefs-d'œuvre en péril, une émission de Pierre Delagarde. Deuxième partie, faut-il retirer aux communes la garde des œuvres d'art ?
Dans notre précédente émission, nous avons vu comment une petite commune de Normandie, celle d'Allouville-Bellefosse, s'était débarrassée pour une bouchée de pain de chefs-d'œuvre de l'art gothique. Heureusement, de telles situations sont assez rares, car la préfecture a un droit de tutelle et l'exerce sur toutes les décisions du conseil municipal. Hélas, il y a bien d'autres causes de disparition des chefs-d'œuvre. Il y a d'abord les vols, et puis il y a aussi l'astuce d'antiquaires pas toujours de très bonne foi. Enfin, il y a parfois la complaisance et la crédulité des curés. Monsieur Dupont, inspecteur en chef des monuments historiques, nous l'affirme.
Les choses se passent de la façon suivante. Un homme se présente chez le curé et lui fait remarquer que les objets de son église sont en mauvais état. Les lustres sont ternes, on n'en voit plus la dorure, les chandeliers du maître-autel sont dans le même état et il se propose de redorer tous ces objets. À ce moment-là, le curé lui fait observer que ça va coûter cher de l'or et il n'a pas d'argent. À ce moment-là, le visiteur se fait insinuant et dit « Je comprends bien votre situation, mais vous ne pouvez quand même pas laisser l'église dans cet état. » Mais dit le curé « Je n'ai pas l'argent. » À ce moment-là, le tentateur dit « Mais monsieur le curé, vous avez bien des vieilleries dans la sacristie et même peut-être dans le clocher. Pourquoi ne me céderiez-vous pas toutes ces vieilleries ? Moyennant quoi, je me ferai un plaisir de vous redorer vos lustres et vos chandeliers. » Et c'est ainsi le plus souvent que se font les sorties d'objets des églises, ce que vous pouvez vérifier dans n'importe quelle boutique d'antiquaires en province ou à Paris, vous y verrez une quantité d'objets qui ne sont pas des objets de valeur, mais qui sont des vieux objets d'église qui n'ont plus leur usage.
Mais dans ces vieux objets d'église, il y a quelquefois des œuvres de valeur, oui.
Là est tout l'intérêt du métier, oui, que font ces redoreurs, si je puis les appeler, oui, ainsi, c'est que de temps en temps, ils tombent sur une pièce vraiment intéressante, qui est leur vrai bénéfice, car je ne peux pas croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur les horreurs qui sortent des sacristies.
Alors dites-moi, les curés, ce sont les ennemis numéro un pour vous?
Non, il ne faut pas dire cela, parce que à côté des curés qui ne savent pas ce qu'il y a dans la sacristie, il y a tous les curés qui s'intéressent beaucoup à leur église et qui seraient au contraire, eux, achèteraient plutôt à leurs collègues les objets que leurs collègues vendent pour les mettre dans leur propre église. Cela s'est vu.
Cela s'est vu.
Cela s'est vu.
Et ils étaient en faute.
Je connais des curés qui ont enrichi leur église, soit de noms de particuliers, soit même de statues qui étaient en déshérence dans un bourg voisin et que le curé a rentré pour la sauver.
Et l'antiquaire, lui, qui s'intéresse trop aux œuvres d'art, c'est aussi une sorte d'adversaire.
Oui, c'est un adversaire dans la mesure où il n'est pas de bonne foi. N'est-ce pas? L'antiquaire sait bien qu'il y a des choses qu'on peut difficilement acquérir sans de grands risques. Et les antiquaires dignes de ce nom seraient très ennuyés de se voir mêlés à une histoire qui n'est pas clé.
Et les vols, est-ce qu'il y a beaucoup de vols? Car je dois reconnaître, pour ma part, que j'ai eu quelquefois la tentation d'emmener quelques saints qui étaient laissés comme ça sur le porche, sans aucun soin d'ailleurs.
N'est-ce pas? Il y a des vols, et les vols sont difficiles à empêcher, étant donné que les églises sont des lieux de culte et sont ouverts au public. Donc le fait que l'église soit ouverte et qu'il y ait des objets précieux dans l'église fait que la moralité publique étant en baisse, eh bien les vols sont devenus relativement fréquents. Les objets sont quelquefois retrouvés parce que la publication de l'objet rend le voleur généralement très inconfortable. Et je crois que les voleurs d'église sont tantôt des bandes organisées qui ont la possibilité de faire sortir les objets à l'étranger.
Comme pour les vols de tableaux.
Un peu comme les vols de tableaux. Ou bien alors ce sont des gens qui ont été tentés et qui, ceux-là, quand ils voient qu'on le sait et que ça fait mauvais effet, sont très capables de renvoyer les objets, de les faire rentrer.
Mais parmi les voleurs, il y a vraiment l'amateur d'art qui le vole pour lui-même?
Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais ça peut être une tentation. Alors à l'heure actuelle, on fait fixer les statues de façon à ce que les gens ne puissent pas les emporter facilement. Mais on a volé des choses tellement extraordinaires. Au Havre, on a volé toute une rampe d'escalier en fer qui était en place.
Comme ça la nuit ou
ouais.
Quoi?
Oui. Oui, une rampe complète. Alors, c'est pas la peine de sceller les objets, elle était scellée, la rampe.
Oui. Alors, pour les statues, on pense ce que ça peut donner. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste? Est-ce que, à votre avis, en 1962, il y a peu de disparitions d'objets de valeur?
Il y en a trop.
Ainsi donc, les risques sont grands de voir peu à peu nos églises se vider, sinon d'œuvres importantes, elles sont pour la plupart classées, du moins d'œuvres intéressantes. Ces œuvres ont d'autant plus de chances de disparaître que les habitants des communes en ignorent la valeur et ne leur reconnaissent aucun intérêt. En doutez-vous? Eh bien voici le témoignage d'un conseiller municipal d'Allouville-Bellefosse qui non seulement lui ne regrette pas la vente des statues gothiques décidées par le conseil municipal, mais encore déplore que cette vente ait été annulée.
Au fond, vous auriez bien mieux aimé que... on ne fasse pas toute cette histoire et puis que vous ayez les 200 000 francs pour arranger les cloches. Parce qu'en définitive, c'est la municipalité qui va payer les 200 000 francs pour les cloches.
Oui.
Et puis vous allez avoir ces statues que vous n'aimez pas.
C'est toujours pareil. Ça ne vient pas du conseil municipal directement. C'est parce qu'il a été guidé sur ce chemin-là, autrement.
C'est parce que les Beaux-Arts ont imposé ça. Hein.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, je veux dire, d'une façon générale. Enfin, est-ce qu'à votre avis, c'est normal que les Beaux-Arts s'occupent des questions de la commune?
Vous savez, c'est assez délicat. Hein.
Non, mais personnellement, enfin. Que
vous... Oui, oh ben, je crois pas, à mon point de vue, mais enfin. Parce que là.
Vos collègues du conseil municipal, qu'en pensaient-ils?
Ben, on était d'accord quand même tous, ben, pour les faire rentrer, mais. Tout bien réfléchi, quand on va les avoir, je me demande bien à qu'est-ce qu'ils vont servir, ben, dans le fond.
Alors, si les communes elles-mêmes ne tiennent pas à conserver dans leurs églises des œuvres d'art, pourquoi leur en laisser la garde?
Est-ce que, à votre avis, les objets de valeur ne devraient pas être mis dans des musées?
Je ne crois pas que ce soit une solution, parce que les objets d'art font partie du patrimoine des communes et du patrimoine des habitants de la commune. C'est quand même, à l'heure actuelle, peut-être un des restes du passé les plus vivants et les plus précieux, étant donné que, comme vous l'avez pu le remarquer, les habitations, les villages, tout cela change d'aspect, et qu'il y a de moins en moins de jolies choses anciennes dans l'architecture française. avec les dégâts de la guerre et les reconstructions, les villages perdent leur caractère. C'est au fond dans l'Église que reste le souvenir du passé, le meilleur.
Oui, mais vous-même, vous avez eu l'occasion de redécouvrir dans une église un Georges de la Tour qui était complètement oublié. Est-ce que vous ne croyez pas que ce Georges de la Tour, qui vaut 25 millions, serait mieux conservé dans un musée?
Non, je ne le pense pas, parce qu'il faut que nous considérions aussi qu'une œuvre d'art vaut beaucoup par son contexte. Je vais vous prendre un exemple qui est facile. Villeneuve-les-Avignon, cette charmante ville située de l'autre côté du Rhône, en face d'Avignon, possédait dans son hôpital deux tableaux. L'un, la Pietà de Villeneuve, le plus beau, a été vendu au musée du Louvre, et vous l'y connaissez. Il a une présentation particulièrement brillante depuis ces années dernières. Il est seul dans une alvéole. Par contre, le couronnement de la Vierge dans Guéron-Charenton est resté à l'hospice de Villeneuve, où il est très visité. Eh bien, je vous demanderai ce qui fait le plus d'impression sur le visiteur, de voir la Pietà de Villeneuve au Louvre, ou de faire le voyage pour aller voir le couronnement de la Vierge de Charenton. Il est bien certain qu'aller directement pour voir un tableau a tout autre sens que d'aller dans un musée où, au milieu de 10 000 autres, vous allez voir une œuvre d'art.
L'argument est convaincant. Oui, les chefs-d'œuvre de l'art prennent souvent tout leur sens, non dans un musée, mais dans le cadre même où ils ont vu le jour. Le premier à l'avoir bien compris est sans doute Proust, qui fait dans « À la recherche du temps perdu » une description si savoureuse et si poétique de l'église de Bolbec et de celle de Combray. Chez lui, il y a à la fois une compréhension de l'œuvre d'art non seulement à travers le paysage, mais encore à travers le milieu social. Ainsi, les statues du portail de Combray sont assimilées à la famille de Guermantes. Eh bien, à la suite de Proust, et sans le savoir peut-être, des milliers de touristes sont à la recherche du chef-d'œuvre, trop peu connu, dont la rare poésie vient souvent et vient en grande partie de ce qu'il a été oublié au fond de nos campagnes françaises. Là encore, à Louville, petit bourg de quelques centaines d'habitants, est un exemple.
Il est certain qu'il y a beaucoup de monde qui passe par ici, venant d'Yvetot, où ils ont vu l'église neuve, l'église ronde dont on a parlé, hein? Et allant à Tancarville voir le pont. Et par ailleurs, l'administration des postes a reproduit une vue du chêne sur les calendriers, il y a 2 ans, je crois.
Eh bien, le sort qui est réservé à la petite commune d'Allouville peut être le sort de toutes les communes françaises. Et cet afflux de touristes est une bénédiction. Oui, une bénédiction. Parce qu'il va convaincre les municipalités non seulement de la valeur des œuvres d'art qu'elles possèdent, mais encore du profit immédiat qu'elles peuvent en tirer. Le tourisme, eh bien, c'est le petit hôtel, c'est les restaurants, les cafés qui revivent et qui exploitent gentiment l'étranger. Alors, que conclure? D'une part, nous avons une masse de touristes, souvent affamés de chefs-d'œuvre, mais qui ignorent où ils se trouvent. D'autre part, des municipalités inconscientes des trésors qu'elles possèdent. Notre but, et le thème futur des émissions qui vont suivre, sera d'établir une conjonction, de révéler aux touristes les chefs-d'œuvre inconnus de nos campagnes et d'intéresser du même coup les municipalités à ces chefs-d'œuvre. Alors écoutez bien. Si vous-même êtes originaire d'une région que vous aimez bien, écrivez-nous pour nous signaler les chefs-d'œuvre méconnus. Nous viendrons sur place vous interroger et faire connaître à la France l'œuvre que vous aimez. Je rappelle l'adresse, Pierre Delagarde, journal Parlé, service des reportages, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. D'avance, je vous remercie de la peine et de l'intérêt que vous prendrez à la conservation de nos sites et de nos chefs-d'œuvre.
C'était « Chefs-d'œuvre en péril », une série d'émissions de Pierre Delagarde.
C'était édition spéciale, 2 volets de l'émission Chefs-d'œuvre en péril. Lutter contre les ventes d'objets d'art, puis faut-il retirer aux communes la garde des œuvres d'art? Première diffusion sur France 2 régionale, les 18 et 25 avril 1962. Vous pourrez réécouter ces émissions en ligne ou les télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.